Chers amis, bonjour. Lors de nos deux précédentes causeries, nous avons passé en revue les faux dieux qui peuplent l'esprit des hommes. Il fallait prendre le temps de déblayer le terrain et de confondre les dangereuses contrefaçons. Cette multiplicité de dieux n'est pas en soi un phénomène tout à fait négatif, car il montre au moins que l'homme a besoin de croire et qu'il cherche des points d'appui pour sa foi. Mais ces tentatives sont pour la plupart très maladroites. Elles n'aboutissent pas à la connaissance de cette personne divine avec laquelle il voudrait entrer en contact. À cause des faux dieux qu'il entretient, le vrai Dieu demeure un inconnu. Mais où est-il? Et qui est-il? Il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent de la puissance de Dieu, partout manifestée dans l'univers. La nature, la mer, les étoiles, l'immensité, tout cela témoigne de lui. L'apôtre Paul déclare que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Mais singulièrement, il nous est très difficile de nous rapprocher de Dieu en méditant sur son immensité. Il semble que plus la science élargit l'horizon de nos connaissances, plus elle nous révèle de nouvelles complexités, plus il nous est difficile de concevoir Dieu dans les limites d'une personnalité. Il s'impose à nos esprits plutôt comme quelque chose d'immensément vaste que comme quelqu'un de grand et de puissant. Une sorte de vertige brouille notre intelligence et Dieu nous apparaît comme une vague abstraction. À cause de cela, beaucoup de personnes ont définitivement abandonné toute ambition de connaître Dieu comme on peut connaître une personne et se donnent pour idéal de travailler au progrès de la race humaine. À défaut de concevoir les choses à l'échelle de l'éternité, elles tirent une certaine satisfaction à améliorer le présent immédiat au moyen de valeurs qu'elles considèrent comme sûres. Mais si cette activité n'est pas mise en rapport avec Dieu, c'est-à-dire avec quelque chose qui se situe hors du temps et de l'espace, hors des étroites limites de cette vie et de cette terre, n'est-ce pas là travailler pour rien? Réfléchissons un peu. Même en supposant que l'humanité soit en progrès, que malgré les guerres qui l'ont déchirée et la déchirent encore, la race humaine devienne de plus en plus saine, de plus en plus riche et sage, et que cette progression se poursuive pendant plusieurs milliers d'années, ou même pendant plusieurs millions d'années encore. Quel que puisse être alors l'état de la civilisation de la Terre, la science nous permet de prévoir que notre planète finira par devenir un bloc de glace où toute vie sera impossible, ou bien elle finira par se désintégrer dans une collision avec un autre corps céleste. C'est ce vers quoi elle s'achemine inexorablement, c'est-à-dire vers le néant. Voilà donc à quoi aboutiront tous nos efforts à réaliser le progrès humain, si nous considérons ce progrès comme une fin en soi, sans parler de la mort qui est elle-même le néant pour chacun d'entre nous en particulier, s'il n'y a plus rien après. Nous sentons bien, au fond de nous-mêmes, un refus catégorique de concevoir la vie et l'avenir dans cette optique désespérante. Ceci ne veut pas dire que la foi en Dieu soit une invention de la peur et de l'angoisse des hommes. Ceci veut dire qu'il y a en l'homme une intuition naturelle de Dieu. Croire en Dieu est naturel. C'est le refus de Dieu qui est contre nature. Nous sommes tous attirés par ce qui est beau, par ce qui est juste, par ce qui est vrai. Mais ce qui est beau ne dure pas. La justice parfaite n'est pas de ce monde. Et la vérité n'est souvent qu'une apparence. Ce qui fait que nous restons sur notre faim. Nous sommes toujours un peu désabusés, déçus, parce que ça ne dure pas. Mais cette soif d'infini qu'il y a en nous, l'infini dans le beau, dans le vrai, l'infini dans le bon, dans le juste, dans la vie, cela est un signe que quelque part la source existe à laquelle nous pourrons nous abreuver. En fait, tous les efforts de l'homme, que ce soit dans le domaine scientifique, philosophique ou religieux, tendent à assouvir cette soif, à trouver cette source. Souvenez-vous, chers amis, des paroles de Jésus sur ce point. Un jour qu'il se trouvait près d'un puits, on put l'entendre dire « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Quelques jours plus tard, il dit encore « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il y a dans ces paroles quelque chose de sensationnel. Elles attirent irrésistiblement l'attention, car elles abordent l'essentiel, le fondamental, le vital. Mais on n'ose pas y croire, tellement il paraît incroyable que quelqu'un puisse nous promettre l'infini. Pourtant, si nous interrogeons le Christ sur ses origines, ses prérogatives, sa mission, il y a dans ses réponses tout ce que nous attendons de la divinité, tout ce que nous voudrions que Dieu nous dise pour nous rassurer et nous donner la joie. En Jésus-Christ, ce Dieu que nous ne pouvions entrevoir qu'au travers d'un brouillard, nous apparaît soudain accessible, comme une personne, et précisément parce qu'il parle, parce qu'il a quelque chose à dire. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Cette phrase de l'évangile de Jean, que nous connaissons tous, résume ce que Dieu a voulu faire pour l'homme. Il m'est arrivé, devant une fourmilière dans les bois, d'avoir envie d'être une fourmi, pendant quelques instants, pour pouvoir partager la vie des fourmis et parler leur langage. D'après le Christ, c'est ce que Dieu a fait. Il est intervenu personnellement dans la vie des hommes, dans leur histoire, pour mieux se faire comprendre d'eux, pour leur apporter la solution de leurs angoisses, la réponse à leurs questions. Il se présente à eux à leur échelle. Il y a trois phrases que le Christ a prononcées, qui le situent exactement par rapport à nous. La première est celle-ci. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. La deuxième déclaration est provoquée par une question de l'apôtre Philippe. Et nous lui sommes reconnaissants d'avoir osé poser la question ainsi. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Et la troisième déclaration que nous connaissons bien, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je ne sais pas si l'on se rend compte combien ces déclarations sont d'une intolérable arrogance, si Jésus n'est qu'un professeur de morale. Mais si Jésus est vraiment Dieu révélé aux hommes, elles sont parfaitement naturelles. Vous rendez-vous compte, chers amis, ce que peut signifier pour l'homme cette intervention de Dieu dans la vie humaine en la personne de Christ. Une fois que l'on a accepté ce fait, l'esprit vacille devant les conséquences qu'entraîne une telle acceptation. Car dès lors, tout s'éclaire, tout change, tout s'explique. Et s'il reste des obscurités, elles sont négligeables à côté de l'inondation de lumière que nous apporte l'acceptation de la proposition que Dieu est en Christ. Nous verrons lors de notre prochain rendez-vous dans quelle mesure et dans quelle direction cette acceptation nous engage.